ressemblait pas à ça avant?
Non, il y a ce poil long. Oh mon Dieu, ça change tout.
L'hôtel est complexe pour chats et chiens urbains Muso. Offre aussi un service de toilettage. Vous écoutez Dans le champ lexical et cette semaine, le mot c'est luxe.
Il a l'air de bonne humeur, en tout cas.
Bienvenue à Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Cette semaine, vous l'aurez compris, on aborde le mot « luxe ». Et on commence cette émission, comme vous avez entendu, à l'hôtel et club pour chats et chiens urbains, Muso. Après être passée devant la Muso Limo, dans le stationnement de l'hôtel, je suis allée rencontrer Linda Zago, la propriétaire, pour faire une petite visite du dit endroit, mais aussi pour définir c'est quoi le luxe pour les animaux en 2012.
Alors ici, ça c'est notre gym.
Okay.
Le gym, bon, ben, c'est tranquille, un petit samedi après-midi tranquille. On a une partie de l'année où c'est assez tranquille. Alors, donc ça, c'est un endroit, ça, c'est climatisé. C'est un endroit où les chiens font de l'exercice. Ils en ont fait toute la matinée, à partir de 8 h ce matin jusqu'à, je sais pas, 2 h. Il y a eu des groupes de petits, de moyens, de gros. Donc là, c'est le temps d'aller se reposer avant que le lunch soit servi vers 4 h. Alors ici, c'est le salon de toilettage.
Ça sent bon.
Donc voilà, donc ça c'est le salon de toilettage.
Ça sent tellement bon.
On a également ce qu'on appelle un rince pattes. Alors un rince pattes, ça sert évidemment à rincer les pattes des chiens qui vont dehors pour s'amuser. Parce qu'on a
ça ici?
Là, on va monter au deuxième étage. Le deuxième étage, c'est vraiment la pension.
OK.
Donc, si ici, il y a des services de garderie de jour et de toilettage, eh bien, en haut, ce n'est exclusivement que de la pension.
Est-ce que vous avez des habitués, des réguliers?
Oui, oui, tout à fait. Il y a des gens qui viennent en garderie 5 jours semaine, tout simplement parce qu'ils habitent au centre-ville. Et puis, ils n'ont pas l'occasion de garder le chien à l'intérieur de...
Donc, c'est pendant le travail.
Pendant les heures de travail, du lundi au vendredi. Et puis, ben, des habitués au niveau de l'hôtel, ça peut être des vacanciers, ça peut être aussi des gens qui partent en voyage d'affaires où ils ont des longues heures au bureau, ils n'ont pas le choix de laisser leur chien. On doit s'occuper du chien en leur absence. Alors, ici, on a une section des chiens de grande taille.
OK.
Alors, je vais vous montrer aussi... Ça, c'est notre terrain de jeu extérieur.
OK.
Alors, là, on a ici ce qu'on appelle la suite présidentielle.
Vous avez bien entendu, la suite présidentielle. Laissez-nous 2 secondes pour sortir, on va vous l'expliquer.
Allô,
on s'est amusé à regarder quelles étaient les terminologies utilisées en hôtellerie. Tant qu'à s'amuser. Alors, on peut avoir des suites exécutives, des suites juniors, des suites présidentielles. Quand on va dans les hôtels, on s'est dit, nous, on va les appeler juniors. On a une suite standard qu'on appelait anciennement supérieure, mais ça porte à confusion, on l'a appelée standard. Puis on a une suite de luxe, puis on a une suite présidentielle. La présidentielle, elle a les télévisions, puis elle a les webcams.
Les télévisions, webcams,
oui.
Wow!
Alors,
pour stimuler les chiens?
Oui, alors la télévision ici, elle sert comme bruit d'ambiance. Là, on ne l'a pas mis cet après-midi, là, mais c'est juste pour dire que des fois, on va mettre des vidéos. Puis c'est sûr que le chien ne regarde pas la télé, on se comprend, mais ça fait un bruit d'ambiance parce que souvent, à la maison, on a la télé ouverte. Voilà, ça fait familier. Ce que vous avez au coin, c'est les caméras webcam. Alors ça, c'est utile pour ceux qui veulent voir leur chien à distance.
Après avoir visité la suite présidentielle, la suite standard, la suite de luxe, on s'est rendu voir les chats. Pour ma part, avec l'espoir que ce soit un peu moins intense d'un point de vue sonore. OK, j'avoue, aussi dans l'espoir de faire des câlins.
Chat en liberté.
Oui, ben, l'idée, c'est que...
Là, il n'y a pas de chat?
Ben.
Non, ben là, pour l'instant, il va être revenu. Ah, ça, c'est Tula. Bonjour, Tula.
Allô.
Elle est belle, hein?
Ouais.
Elle est gentille comme tout, c'est incroyable. Elle est très affectueuse, cette chat.
Donc, ça, c'est sa. Est-ce que
ça, c'est sa appelé... cabine?
OK, cabine, parce qu'on dit pas cage.
Bon, on appelle ça une suite. OK. C'est toutes des suites. Le temps qu'elle s'amuse, on va jusqu'au bout, là. Alors, ils sont dans des suites. Pourquoi est-ce qu'on on parle de chat en liberté? C'est que, de toute évidence, c'est difficile de divertir un chat. Hein? Donc, dans la mesure où il nous laisse faire, où il est prêt à ce qu'on le brosse, qu'on s'amuse avec lui, mais au bout de quelques minutes, là, c'est comme « laisse-moi tranquille, moi, je vais aller explorer ». Donc, on leur laisse la liberté pendant une heure d'aller se promener un petit peu partout ici. Puis ensuite, à tour de rôle, ben là, on ouvre la suite de son voisin, puis c'est à son tour de se dégourdir les pattes. Donc, c'est ça. Alors, vous en avez des plus petites, vous avez également des cages. Ça, c'est pour offrir, disons, une variété au niveau des prix, au niveau des grandeurs.
Parlant de prix, tu sais, je vois qu'il y a différentes 30... façons de...
Ça, ce serait 35. Ça, ce
35
serait...
la nuit.
Oui. Ça, ce serait 28. Ça, ce serait 25.
Puis parlant des suites présidentielles, là, disons.
Oui.
Ça, c'est combien?
Bien, une suite présidentielle, d'habitude, ça sert à les familles à chiens multiples. Parce que ça devient plus économique quand on a deux ou trois chiens. Les chiens ici, quand on a plus qu'un chien dans une suite, le deuxième chien est à 22 $, peu importe la grandeur de la suite. Puis le premier dépend de l'espace. Alors, si vous êtes dans une suite junior, c'est 45 le premier chien. Une suite de luxe, c'est 50. Donc, plus il y a de pieds carrés qui est alloué aux animaux, bien, c'est plus cher.
Mais là, on sort. Moi, j'ai le goût de souffler. Est-ce qu'on oublie ces jappements-là à un moment donné? Est-ce que ça devient tellement régulier que vous les entendez?
Ça, c'est vraiment rien, là.
Ah ouais? Mon Dieu.
Oui, c'est sûr qu'on
des
est...
fois, ils s'excitent.
Oui, puis des fois, bon, il y a une plus grande concentration de gros chiens, donc c'est sûr que ça fait beaucoup de bruit. Mais dès qu'on quitte les lieux puis qu'on ferme la porte, vous savez, les chiens veulent avoir de l'attention. Donc mm-hmm. là, vous savez, ils aboient pour attirer l'attention. Mais dès qu'on ferme la porte, là, les aboiements, ça fait. Il n'y en a plus. La seule chose, par contre, c'est qu'on finit par plus les entendre. On devient tous sourds, là, mais on finit par plus les entendre. Moi, je pense qu'il faut vraiment bien définir le mot « luxe » quand on parle de notre établissement. Je pense qu'on est un endroit moderne et un endroit bien adapté. C'est-à-dire que les matériaux qui sont utilisés ici sont adéquats. Alors qu'il s'agit de la céramique, que ce soit de la vitre, de l'aluminium, en tout cas, c'est tous des matériaux qui sont très lavables et qui permettent aux chiens, je veux dire, d'être à l'aise. Ils vont pas se mettre à manger le matériel, ils vont pas se mettre à avaler des choses. En d'autres mots, ils sont en sécurité dans un environnement qui leur convient. C'est ça le luxe en 2012 pour les animaux. On a dépassé le béton humide. Ici, tout est climatisé. On a des échangeurs d'air. C'est ça le luxe. C'est sûr que quelqu'un qui est pas tellement, qui se connaît pas tellement dans le domaine canin, ça peut avoir l'air un peu bizarre d'appeler ça un hôtel, puis de parler de luxe, puis de modernisme. Mais on ne tombe pas dans la dérision ici. Ce qu'on fait, c'est que on a décidé d'offrir des services de qualité. On a des hauts standards au niveau de notre établissement puis au niveau de la compétence de nos employés. Puis c'est comme ça que je le définis le luxe. Les chiens n'ont pas de collier de perles. Il n'y a pas de table de nuit, des tables de chevet avec des lampes. Je veux dire, il n'y a pas de couvre-lit. C'est adapté aux animaux. C'est simplement adéquat, selon moi.
Les lumières de la tour Ville-Marie tournent, tournent comme nos saisons fanées sans faire de bruit. À l'intérieur comme dehors, les hivers passent sur nos corps, le temps est moins multicolore. On sait les mots, on sait les gestes, on a beau savoir lâcher du lest, souvent le vent vire de bord. On trouve moins souvent qu'avant cette route tracée dans le noir comme une aurore. La mémoire, cet îlot au milieu de la ville, le bruit que font les cœurs de part de tombe et pile, saurons-nous de tomber. Rien n'a changé dans le décor, cité d'envol, cité du nord, pourtant la nuit serre plus fort. On reçoit moins souvent qu'avant les faisceaux de notre bonne étoile, le souffle qui tendait nos voiles. Cet îlot au milieu de la ville, le bruit que font les cœurs de par de tombes pile. Saurons-nous de nous retrouver le fil, le bruit que font les cœurs de par de tombes pile. Le bruit que font les cœurs de par de tombes pile. Saurons-nous de nous retrouver le fil, le bruit que font les cœurs de par de tombes pile. Une porte s'ouvre au mur du temps. Été, tant de rayons sur nous, plus rien n'est compliqué. Automne, passe ton doigt sur les failles, au soir qui tonne. Hiver, j'ai perdu nos traces, tu cherches ton air. Tu cherches ton air. Cet îlot au milieu de la ville, font les cœurs de par de tomber pile. Saurons-nous de nous retrouver le fil, le bruit que font les cœurs de par de tomber pile. Le bruit que font les cœurs de par de tomber pile. Saurons-nous de nous retrouver le fil, le bruit que font les cœurs de par de tomber.
Lorsque vient le temps d'évoquer un mode de vie luxueux, un des épithètes auxquels on a le plus souvent recours est épicurien. Il est particulièrement utilisé ces dernières années avec la multiplication de ces formidables émissions consacrées à la fine gastronomie. Oui, mais qu'est-ce qu'un épicurien au juste? Bon, épicurien, ça vient d'Épicure. Épicure, c'est un philosophe grec de l'époque hellénistique. Voilà. Bien. Mais encore, quelle est sa philosophie et qu'est-ce qui devrait se définir comme un véritable épicurien? Voici ce qu'en dit le Dictionnaire de l'Antiquité, un ouvrage de référence de base sur les différents éléments de l'histoire et de la philosophie antique. L'objectif d'Épicure était de conduire les hommes sur la voie de la sagesse, qui devait pouvoir être atteinte en se fondant sur l'évidence des sens, en éliminant la superstition et la croyance en une intervention surnaturelle. Pour Épicure, le bonheur consiste à atteindre la tranquillité de l'âme, un état obtenu grâce à une bonne compréhension de la nature. Sa théorie morale est résumée par une phrase d'une de ses lettres. Nous disons que le plaisir est le commencement et la fin du bonheur. Pour lui, le plaisir s'identifie donc au bien, car il est dans la nature de l'homme de rechercher le plaisir. La douleur, qui est un dérangement de l'état naturel, est provoquée par un désir insatisfait. Or, l'on ressent du plaisir lorsque l'état naturel est recouvré. Cependant, certains plaisirs entraînent des douleurs dans leur sillage. C'est pourquoi on doit satisfaire les désirs naturels et nécessaires, seulement donc, juste les désirs naturels et nécessaires, mais accepter l'assaut de la douleur comme limite du plaisir. D'où ce fait que le plaisir puisse se trouver dans la limitation du désir. La limitation du désir. Il est possible que sous le terme de plaisir, Épicure unisse à la fois la jouissance positive et l'absence de douleur. Le plaisir intellectuel est bien plus fort que le plaisir physique et la douleur intellectuelle bien plus forte que la douleur physique. Et il se trouve dans ce qu'il appelle l'ataraxia, c'est-à-dire l'absence de trouble. On doit rechercher l'absence de trouble. On peut y parvenir de trois façons. En apprenant à connaître la nature de l'univers et de la mort, ce qui ôte la crainte du surnaturel, la pire des douleurs de l'âme. En s'éloignant du tumulte de la vie publique et en évitant les charges émotionnelles. Si vous avez bien saisi tout ça, vous comprenez qu'on est loin, très, très loin, d'une beauty shot sur un verre de vin de grand cru accompagné d'un chocolat fin extra noir. C'est une définition de l'épicurisme tirée du Dictionnaire de l'Antiquité publié aux éditions Robert Laffont. Time was running fast. While we were walking so slow, well, I watched us grow and grow. Carried our love in cups to go.
L'indice « rouge à lèvres », c'est une expression créée dans les années 2000 pour exprimer l'idée que les produits cosmétiques se vendent en plus grande quantité dans les moments de crise économique, donc d'une façon inversement proportionnelle à la santé de l'économie. Selon le PDG de la société de cosmétiques Estée Lauder, dont les ventes se portent super bien depuis le début des années 2000, l'indice à rouge à lèvres, ou le lipstick index pour les Français, a pu être constaté tout de suite après le 11 septembre 2001, alors que la vente de ces produits a monté en flèche. Au plus fort de la crise économique, en 2008, il a vu ses ventes de rouge à lèvres bondir de 11%. Selon Karen Grant de la firme statistique américaine NPD Group, et je cite, « Si la croissance touche l'ensemble des produits haut de gamme, ce sont les produits de luxe les plus chers qui enregistrent la plus forte hausse. » D'ailleurs, selon la même firme, les ventes de fards à paupières aux États-Unis ont connu une hausse de 14% en 2011, la première depuis 2006, et les ventes de rouge à lèvres, une hausse de 13%. Certains économistes du New York Times ont réfuté cette supposition en affirmant que le rouge à lèvres n'est pas une source assez fiable de la santé économique d'un pays. Quoi qu'il en soit, personnellement, je pense qu'un sourire à 30$ n'est pas plus enjolivant qu'un sourire qui vient de se réveiller. Mais je ne suis pas en récession présentement et qui sait, peut-être que si je perds ma job, je vais courir m'acheter un Estée Lauder, préférablement au-dessus de 150$.
Oui, mon nom c'est Yvon Martel.
Bonjour Yvon.
Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir?
C'est quoi le gros luxe pour vous?
Mon gros luxe, moi, c'est chanter puis m'amuser.
Ah oui, il chante.
Moi, je chante partout, dans les bars, dans les restaurants, dans les machos plus partout.
Le gros luxe, c'est la vie. That's it.
L'amour. Ouais, l'amour.
C'est beau.
C'est ouais, merci. Ouais, je viens, ouais.
Ça le pote? C'est
ouais,
luxe,
c'est
ça?
Monsieur là à côté, c'est pas moi.
Le gros luxe, j'ai aucune idée, c'est quoi l'amour?
T'as aucune idée, arrête de niaiser.
C'est quoi ça, le gros luxe?
Le gros luxe, c'est quoi?
Le gros luxe, c'est pouvoir changer son password de Facebook quand il veut.
Ça passe où, ça?
Oh, je sais pas. Moi, dans ça, là, je connais pas ça. Je connais pas.
Pardon?
Je connais pas ça.
Pour le moment, c'est de la santé à l'âge que je suis rendue. Puis un gros luxe, ben ça serait, je sais tu, oui, un voyage me reposer. En Floride, sur le bord de la mer. Pardon?
Avec les L tabernacles? Oui,
avec les L tabernacles.
Le gros luxe. C'est pas le bon gars matin, sérieux, là. Non. Vraiment, là, non, excuse.
Tout avec, on a besoin d'un char, on marche à pied depuis des années. C'est bien qu'un char, ça serait cool. Moi, j'ai plus de permis. Mais mon frère, il a son permis encore.
Un char?
Quel genre?
Une BM. T'as qu'à avoir un gros char. Le marine.
Le gros luxe. Que je continue à travailler toute ma vie.
Qu'est-ce que vous faites comme job?
Livreur de dépanneur.
D'être fallu faire un beau voyage, bien chaud, une plate bien chaude. C'est ça.
Genre à Cuba?
Oui.
Et là, présentement, le gros luxe, un voilier, c'est tout.
Oh, un lift, là.
Un luxe.
Pas tout le monde, ça, là-dedans, pour moi. Je n'en ai pas.
Gros luxe. Moi, je vis pas dans le gros luxe. Un beau voyage à Walt Disney avec les arrière-petits-enfants.
Gros luxe, les restaurants. J'aime bien ça, les restaurants, moi. Oh mon Dieu, quasiment tous les jours. Je dépense tout mon argent, là.
C'est quoi votre repas préféré?
Oh, de le pâté chinois et la saucisse. Le pâté chinois, c'est bon, hein?
Et pour finir, voici plus de sous-marins de poche. On vous en avait déjà présenté et on a senti un vrai besoin, une vraie demande, quoi. Alors, hop, ni une ni deux, on vous en a trouvé d'autres. Celui-là est vintage. Il a été imaginé dans les années 70 et tu sais quoi? Ça se voit. Il descend à 350 mètres de profondeur. Mais si t'as peur des poissons, il est très bien aussi en déco sur ton yacht. Mais ce serait dommage, parce qu'il t'a coûté $1,5 million et des brouettes. Et parce qu'une fois que t'es dedans, c'est le bonheur. Hein les gars? C'est le bonheur. Un sourire? Ok. On passe au suivant, très Rastapopoulos, c'est du cossu, air conditionné, siège en cuir, y a pas de minibar? Oh mais si, peut-être sur la version de 65 mètres? Ouais, 65 mètres de long. Ah oui, c'est du lourd, c'est du cossu.
C'était un extrait de l'émission Watcha, un magazine télé français qui présente, sur un ton dérisoire, toutes sortes de produits et d'activités de luxe. Si c'est insolite, inabordable, inaccessible et probablement inutile, et que ça fait bling, évidemment, c'est un sujet pour Watcha. vous êtes toujours à l'écoute de Dans le champ lexical, l'émission qui, cette semaine, tourne autour du mot « luxe ». S'il existe des luxes de pauvres, le Kraft Dinner avec la sauce blanche par exemple, on s'entend pour dire que ce sont surtout les riches qui vivent dans le luxe, et leur richesse en fait rêver plus d'un. Plus d'un, mais définitivement pas, le philosophe et professeur français Michel Serres. Sur le plateau de l'émission « Ce soir ou jamais », il y a quelques semaines, on l'a entendu réagir au luxueux bonus de 16 millions reçu par un patron.
Je crois que ces chiffres font rêver. Tout le monde dit que c'est un rêver. Ça ne me fait pas rêver du tout. Que ce soit 16 millions, 340 millions, je m'en fous totalement. Parce que je vis, tout simplement. Je suis professeur, j'ai donc un salaire relativement misérable. Mais j'en suis heureux, ça m'est égal. 350 millions, mais à quoi vous jouez? Qu'est-ce qui vous fait bander dans cette affaire? Rien du tout. Mais c'est du vent. C'est du vent. Vous m'emmerdez avec tout ça. Moi, je suis pauvre, je suis fier de l'être.
Jean-Christophe Noé.
Chacun bon. Et je trouve que la pauvreté est une vertu et que la richesse à ce point est une sorte de parangon de tous les vices. Parce que,
elle est immorale parce que, pour vous.
Mais non, c'est pas immoral. Et c'est très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un vice? Hein, l'orgueil, l'avarice, la luxure, etc. Vous connaissez la liste. C'est simplement des acquisitions de chiffres. De plus en plus de femmes, de plus en plus à bouffer, de plus en plus à boire, de plus en plus à acquérir, etc. Toujours plus, etc. Et après. Et après. C'est simplement un délire de la raison. Et la sagesse n'est pas là. Et si nous sommes philosophes, Alexandre, nous nous foutons parfaitement de cette affaire. Et il n'y a pas à discuter, je vous emmerde avec vos 40 millions.
Jean-Christophe Maurice.
C'est complètement absurde. Vous n'êtes pas sage, vous rêvez à des chiffres. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la merde.
Jean-Christophe Maurice.
Sonny Duval se paie le luxe d'une chanson en ré. En retournant les bouteilles vides de ma voisine d'en face, j'ai pu avoir assez d'argent pour m'acheter des sushis presque frais. En retournant les bouteilles vides de mon voisin d'à côté, j'ai eu assez d'argent pour me procurer une montre en plastique. En retournant les bouteilles de ma voisine de derrière, la folle, j'ai eu assez d'argent pour m'acheter un vélo mauve. En retournant mes propres bouteilles, j'ai pu me payer le luxe d'un violon usagé, mais un violon quand même.
S'il est un terme qui devrait, à mon avis, revenir à la mode afin de pouvoir taxer les gens qui aiment le luxe, qui le recherchent, c'est celui de sybarite. N'est-ce pas un joli mot? S-Y-B-A-R-I-T-E. Sybarite. Charmant. Le dictionnaire de l'Académie française, sa 8e édition, le définit ainsi. C'est une définition qui date déjà du 18e siècle, moment où le mot est particulièrement utilisé. Probablement que c'était l'équivalent d'épicurien pour nous maintenant. Donc, eux, ils utilisaient sybarite et le définissent ainsi. Personne qui aime le luxe, le raffinement en matière de plaisir, qui recherche le confort dans la vie comme dans la pensée ou qui y est habitué. Avouez que sybarite, c'est quand même plus chic que bling-bling. L'une des utilisations les plus connues au 18e siècle, et qui l'est restée encore maintenant dans plusieurs études de philosophie du mot sybarite, est un extrait d'une lettre de Voltaire à Pascal. Enfin, Voltaire n'écrit pas à Pascal personnellement, mais il réplique à ce qu'il croit avoir compris des écrits de Pascal. Pour lui, Pascal est un triste sire qui ne voit que du désespoir dans l'âme humaine. Et il lui répond « Pour moi, quand je regarde Paris ou Londres, je ne vois aucune raison pour entrer dans ce désespoir dont parle M. Pascal. Je vois une ville qui ne ressemble en rien à une île déserte, mais peuplée, opulente, policée, et où les hommes sont heureux autant que la nature humaine le comporte. Quel est l'homme sage qui sera plein de désespoir parce qu'il ne sait pas la nature de sa pensée, parce qu'il ne connaît que quelques attributs de la matière, parce que Dieu ne lui a pas révélé ses secrets? Il faudrait autant se désespérer de n'avoir pas 4 pieds et 2 ailes. Pourquoi nous faire horreur de notre être? Notre existence n'est point si malheureuse qu'on veut nous le faire accroire. Regarder l'univers comme un cachot et tous les hommes comme des criminels qu'on va exécuter est l'idée d'un fanatique. C'est un peu ce dont il accuse Pascal. Croire que le monde est un lieu de délices où l'on ne doit avoir que du plaisir, c'est la rêverie d'un sybarite. Penser que la terre, les hommes et les animaux sont ce qu'ils doivent être dans l'ordre de la Providence est, je crois, d'un homme sage. » On aura compris que c'est à cette dernière phrase qu'il s'associe et que c'est la pensée que Voltaire va défendre dans sa philosophie. C'est donc un extrait d'une lettre qui s'appelle « Lettre à Monsieur de Pascal » et un argument qu'il reprendra d'ailleurs, une lettre qu'il reprendra presque intégralement dans ses lettres philosophiques, dont je ne saurais trop vous suggérer la lecture, que c'est un petit bijou d'esprit et d'intelligence du grand Voltaire. Donc...
On est tout au salaire minimal. Y'a pas de danger de faire une overdose avec des miettes. Une mordée de pavé, c'est tout qu'est-ce qu'il me reste à manger. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est bien trop haut. Les gâteux, les séniles qui tiennent le gouvernail, ils sont même pas rendus compte que le bateau est plus dans l'eau. Moi, c'est vrai, je fais pas grand chose. Je tourne en rond dans mon salon. Les ronds du poêle, les ronds de fumée, les tours d'horloge, les ronds de café. Par changer, mais j'aime bien mieux rêver que de faire des cauchemars à l'année. Les lendemains qui chantent, mais jamais pour moi. Les lendemains qui se plantent, les lendemains qui penchent. Toujours sur le même bord. Comment veux-tu qu'on survisse? On est tout au salaire minimal. Y'a pas de danger de faire une overdose. Y'a pas de danger de faire une overdose. Y'a pas de danger de faire une overdose avec des miettes.
Bon, on va mettre quelque chose au clair. Je viens de Verdun. J'aimerais ça qu'on démystifie un peu l'aura de fumée de nicotine qui émane de Verdun. C'est pas vrai qu'il y a rien que de la merde qui vient de là. Je sais que dans mon cas, ça paraît pas au premier coup d'œil. À part la marque que j'ai ici à force de m'être promenée toute mon enfance avec ma crowbar dans le cou pour rentrer chez nous le soir, ça paraît pas tant que ça. Faut creuser longtemps, puis gratter la plaie pour trouver mon côté rough, rongé par une enfance à traîner d'un fond de ruelle, à chercher des bouteilles en vide brisées pour aller péter la piscine hors terre de nos seuls voisins riches. Mais il est là, mon côté écorché. Il existe. Bien ancré entre mon rêve d'enfance de devenir caissière chez Normand Patate puis mon tailleur à force d'y être trop allé. Mais là, j'ai fait mon chemin. Venir de Verdun puis réussir, ça se peut. Puis quand ça arrive, ça impressionne, oh oui! Parce qu'entendons-nous, si ça n'avait pas été de venir de Verdun, les coups de poing des frères Elton auraient complètement passé dans le beurre. Ou du moins juste dans la face de leur conjointe. Tu sais, quand tu viens de Verdun, c'est tout à fait satisfaisant d'être assistante gérante chez Rossi. Puis la beauté de la chose, c'est que quand on est verdunoise, il y a moins de pression, les attentes sont moins grandes. Puis si je me casse la gueule, ben je peux toujours retourner vivre dans le 4,5 familial avec mes 6 frères et sœurs, ma mère, mon beau-père, mon ex-beau-père puis ma tante en chaise roulante qui tousse brun. Parce que je viens pas de l'île des sœurs, moi, oh non! Je viens du bout de crade, celui où 6 familles qui vivent au salaire minimum sont entassées dans un triplex, puis dans le cours avant, il y a la niche du chien, le vieux radiateur de la Mazda 82 morte, puis les restantes couches de Steve, le petit dernier. Mais il y a quand même du beau dans Saleté de Verdun. Les robineux sont pas obligés de faire le tour des vidanges. C'est un buffet à volonté à longueur d'année. Tout traîne dans la rue. Puis je parle pas juste des madames âgées à talons hauts qui louchent en te demandant avec une cigarette dans la bouche « Qu'est-ce que je peux faire pour combler ton bonheur, mon poupit? » À Verdun, le monde s'arrête pas aux codes de présentation, de propreté puis d'hygiène. Oh non! À Verdun, les chandails unis se ramassent bien souvent avec des motifs de coulisses en avant. Puis malgré tous les recours collectifs pour l'insalubrité, tout le monde se rassemble au NIVD. Ça, c'est la marquise pas toute allumée du resto Nouveau Verdun vu de loin le soir, le NIVDE. Tout le monde y va, même ceux qui poursuivent, parce que c'est le point de rencontre, l'agora de la petite tresse en arrière, la mec du legging avec l'élastique en dessous du pied. Puis il y a une occasion dans l'année où le resto est moins plein, et c'est la vente-trottoir de la rue Wellington! Là, c'est le festival du début du mois. Le monde est riche à s'acheter de l'usager. Ça flambe son cash au stand à hot dog. Les filles sortent leur fort à paupières bleu brillant Ardennes. Les gars spotent les filles qui n'ont pas encore maté. Ça finit en arrière du Steinberg. Bing bang, c'est le party sale! À Verdun, dès l'âge de 13 ans, les filles sont catégorisées en deux types. La femme au foyer ou la femme fontaine. Mais même si t'es du type 2, dis-toi que tu te ramasses assez vite en type 1. Faut enlever ça de nos têtes qu'à Verdun, il y a juste des BS. Parce que c'est complètement faux. Oh oui, il y a des enfants aussi. C'est vrai que ça fait 2 démunis de Verdun à la fin du mois qu'ils n'ont plus une scène pour jouer au vidéo poker. Ça va chercher son fun ailleurs. Puis au pire, ils auront juste à aller attendre une couple d'heures à clinique. Parce que de 1, ils ont du temps. Puis de 2, c'est le deuxième point de rencontre en importance des verdunoises de type 2, en autant qu'il n'y ait pas de vent de trottoir. Vous savez, plus je vieillis, plus je me rends compte que j'ai plus rien à voir avec la mère monoparentale de 4 enfants avec qui je suis allée au primaire. Ça serait bien facile de quitter le quartier, de m'installer dans un 3,5 à 960 $ par mois dans le Mile End, puis de renier d'où je viens juste pour pas me faire dire des platitudes d'un party. Mais je refuse. Verdun, c'est mes racines. Puis la marde, c'est le meilleur compost pour faire pousser un arbre qui va avoir de l'allure.
Extrait d'un texte du Marie-Claire Maison, un magazine de décoration, de visite, de belles demeures, qui sait abuser du mot luxe avec beaucoup d'imagination. Dans cet article, on nous présente une résidence exotique ouverte sur les brises de l'océan Indien pour vivre nonchalamment en parfaite harmonie avec la nature. Le salon. Cette résidence exotique emprunte au port de la route des épices, ses styles et ses essences, comme ici, dans le salon intérieur, sous un plafond en panneaux de rabanne, des stores en bois d'Australie, un plancher de palissandre de Madagascar et un guéridon au plateau de pierre balinaise habillé de rotin. Un intérieur au luxe discret. Ici, on vit nonchalamment dans un contraste saisissant entre une nature exubérante aménagée pour le plaisir et des intérieurs aux lignes sobres, aux couleurs de soleil et de la terre, comme cet ensemble de fauteuils cannés de planteurs hollandais aux têtières en soie sauvage thaïlandaise, au mur, une collection de gravures capitonnées représentant des dignitaires indiens. C'est un extrait d'un article consacré aux escales privées pour hédonistes du monde entier, tiré du Marie-Claire Maison.
Pour certains, une sangria, boisson dont le groupe Hepatitis Blow chante les vertus, c'est un luxe. Dans le champ lexical, soyons clairs, n'est pas du tout de cet avis. Pour nous, le luxe et la belle vie, c'est un verre de champagne bu en portant une rivière de diamants autour du cou. Et mesdames, si vous pensez que les diamants, vos meilleurs amis, vont vous sauter au cou tout seul, vous vous trompez. La chanteuse Régine nous l'a d'ailleurs chanté en 1969, avec les mots de Serge Gainsbourg. Tes jolies larmes, c'est bien gentil, mais ces rivières-là n'ont pas de prix. Rien ne vaut un homme autour du cou, du moins pour se passer de ses envies. Regarde derrière toi, ma chérie, ce sont des 20 carats qui s'enfuient. Une chanson machiste, la chanson, si t'attends que les diamants te sautent au cou? Ben allons donc.
Rien ne vaut un homme autour du cou, du moins pour se passer ses envies. Si tu n'as que ça à mettre au clou, dépêche-toi tant que t'es encore jolie. Aux yeux de tous les vieux débris, ta jeunesse, ça n'a pas de prix.
Mais le luxe, au fond, c'est quelque chose de bien relatif. Quand on ne possède pas grand-chose, comme les personnages de la comédie musicale Belle-sœur, une nouvelle coutellerie, un beau tapis en nylon synthétique ou les pots, là, tu sais, les beaux pots, ben ça peut être du gros luxe, surtout si c'est payé avec des timbres dans un catalogue.
Le set de chambre, je vais le prendre style colonial. Des rideaux, du tapis.
Gratis!
Deux belles petites tables. Pour le salon, je vais prendre la stéréo. Des cols chinois, des gros avec du velours.
Gratis.
Sur la table, un gros plat en verre soufflé.
Ouh.
Des lampes, des bibelots, puis des cendriers. Puis la chambre du petit, tout en Walt Disney. Je vais tout prendre ça.
Elle va tout prendre ça.
Ah oui, ah oui, ah oui.
Elle va tout prendre ça.
Aujourd'hui, on se scandalise de ce que les banquiers, les présidents de compagnies et les recteurs d'université se paient avec de l'argent, parfois gagné de façon discutable. Il fut une époque où c'était plutôt les curés qui profitaient d'un luxe inaccessible au commun des mortels. Les charbonniers de l'enfer nous chantent dans la chanson Le Kyrie, ce qui aurait sans doute provoqué un Occupy le presbytère si le mouvement avait existé à l'époque. bain d'eau chaude, robe bien apprêtée, perdrix bien faisandée, lutte à la TV, belle spitoune dorée, y a rien de trop beau pour monsieur le curé.
Kyrie, au coucher de nos curés, ils ont des lits bien réchauffés, tandis que nous pouilleux de crasseux de verre, de vlimeux de vie, quelle misère. Faut péter pour s'empêcher de geler.
Mais on beau chialer les charbonniers et les occupiers de ce monde, mais c'est pas toujours facile d'être riche et de se payer plein de luxe. C'est du moins ce qu'on comprend en écoutant la pièce de Pauvres riches des Français de TTC. Chez les personnages de la chanson, malgré le luxe, c'est la misère, la galère. L'une d'entre elles, par exemple, regrette de ne pas avoir eu de chance. C'est pas de sa faute si ses parents sont avocats, elle aurait bien aimé avoir le choix. Même si, en même temps, quelquefois, ça ne la dérange pas de conduire la Laguna de papa pour se rendre, évidemment, à son cours de capoeira. Ah, c'est pas facile d'être riche et de vivre dans le luxe. Allez, moi je vous quitte, je dois aller prendre une sangria sur une terrasse d'Outremont, parce que moi j'ai le droit, j'ai déjà mon bac, et je vous laisse donc avec De Pauvres Riches, de TTC.
Jean-Louis Baptiste a arrêté ses études à 20 ans, terminale, il décide de tout plaquer. Décision intelligente, il échouerait au bac pour la troisième année consécutive. Il cultive la fainéantise, il butine à la paresse collective et sèche les cours avec ses potes dans sa piole. Il habite tout seul depuis sa majorité, 56 mètres carrés à proximité du marais, c'est sa zone. En plus d'être égoïste, il boit et fume depuis l'âge de 13 ans. Peut-être qu'il se tape un gros fixe, mais non, et avale un petit truc qui te scotche les dents, puis s'arrache sur sa trottinette. JLB a rendez-vous avec une pute tchatchée sur internet. Le village planétaire, son tarif est excentrique, mais monsieur a quelques briques sur son compte, donc il peut se la raconter avec ce visage qui a l'air d'être refait. Passons, ce garçon est une caïra avec ses darons, aucun respect, c'est une espèce néfaste. Il a ce style paumé pour essayer de gommer son côté friqué, mais son attitude n'est tout simplement pas naturelle.
Putain, c'est la merde.
Pourquoi tu dis ça?
Chez moi, c'est la misère.
Ah ouais, t'as trop raison.
Ici, c'est la galère.
Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte.
Yo, les vacances écolo. Saint-Paul en vélo, hollandais, tu connais les magasins bio. L'huile d'olive aux herbes de Toscane. Une nouvelle pile de livres importée de Boston. Sur mesure les costumes dans des restos chics en guest star. Fest avec la fille de Bill Clinton. Un solarium déverse des pluies de paillettes d'or, virant de l'orange mauve selon l'emplacement de notre planète par rapport à ses astres. Moulure au plafond dans les chambres, exposée plein sud, très vaste, la grande classe Nestor. Écarte tout facteur déstabilisant, rate pour son épanouissement personnel. Le cocktail de la réussite est générationnel, le fait d'être ponctuel, toujours fonctionnel. Estelle, complètement chez père, sous acide, avale des barbituriques pour redescendre.
Putain, c'est la merde.
Pourquoi tu dis ça?
Chez moi, c'est la misère.
Ah ouais, t'as trop raison.
Ici, c'est la galère.
Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte.
Elle traîne dans des squats d'artistes. Elle teint ses cheveux en rouge pour se donner l'impression qu'elle existe. Jamais un sou en poche pour se donner l'impression qu'elle résiste à la pression dans la société de consommation. Alors que sa fortune est placée sur un compte en banque éthique. Elle écoute Louise Attaque parce que sur scène, ils ont trop la patate. Elle aimerait avoir des potes en banlieue, mais la réalité la rattrape. Elle écoute aussi du rap conscient depuis trop longtemps parce que le système, il est vraiment pas juste et ça la rend pas contente. C'est pas de sa faute si ses parents sont avocats, elle a pas eu de chance, elle ne comprend pas, elle aurait bien aimé avoir le choix. En même temps, quelquefois, ça ne la dérange pas de conduire la Laguna de papa pour se rendre à son cours de capoeira. Son petit frère est MC, depuis qu'il boit de la 8-6, il s'invente une vie. Et tous les lundis après le catéchisme, il rêve de Tessie, il rêve d'avoir des soucis. C'est tellement chic de ne pas avoir de fric, tu saisis?
Putain, c'est la merde.
Pourquoi tu dis ça?
Chez moi, c'est la misère.
Ah ouais, t'as trop raison.
Ici, c'est la galère.
Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte.
Putain, c'est la merde.
Pourquoi tu dis ça?
Chez moi, c'est la misère.
Ah ouais, t'as trop raison.
Ici, c'est la galère.
Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte.
Putain, c'est la merde.
Pourquoi tu dis ça?
Chez moi, c'est la misère.
Ah ouais, t'as trop raison.
Ici, c'est la galère.
Reprends du champagne, man. De toute façon, ce week-end, on se barre sur la côte.
How do these words summarize for us the basic tragedy of the poem? Think back to an event in your own life which involved an important decision. Do you feel now that a different decision would have changed things for the better?
Stop the record now at the band.
Mm. C'est tout pour nous cette semaine. En musique, vous avez pu entendre au cours de l'émission les chansons suivantes: Ville-Marie de Tristan Malavoie, Into Giants de Patrick Watson, Sur Vicissitude d'Urbain Desbois et De Pauvres Riches de TTC. Dans le champ lexical est une émission de Joanie Larue et Mathieu Charlebois qui, chaque semaine, se paie le luxe d'avoir de nombreux collaborateurs, on se croirait à Radio-Canada. Cette semaine, il s'agissait de Chloé Barry au texte historique et à la recherche, Sonny Duval à la chanson originale, Annie Rossano au vox pop, Nadine Mathurin au texte humoristique et Dominique Charon et Christiane Campagna à la recherche. Le DJ est une ordure suit dans quelques instants sur les ondes de CIBL. Et nous, ben, la semaine prochaine, on va faire toute la lumière sur le mot lumière. Alors, soyez-y. Flowers in spring, the robins that sing, the sunbeams that shine.